Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode sur l'instruction en famille, je reçois Myriam, ancienne enseignante, qui avec son époux et ses enfants ont fait le choix donc de l'instruction en famille. Nous parlerons notamment des raisons qui amènent ce choix d'instruction, ce qui peut se passer pendant des contrôles, l'importance de connaître ses devoirs et aussi ses droits au travers de différents exemples. Nous évoquerons aussi la situation actuelle par rapport au projet de loi qui vise à supprimer la liberté d'enseignement et la pratique de l'instruction en famille. Vous connaissez peut-être Myriam au travers de son site internet et son compte Instagram « Apprends-moi autrement » qui permet d'avoir des ressources ludiques et pédagogiques pour aborder différentes notions, notamment scientifiques, avec les enfants. Dans un premier temps, je vais demander à Myriam de présenter sa famille et ce qui a amené le choix de l'instruction en famille. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Donc on est une famille nombreuse. Moi, j'ai 6 enfants. Parmi les 6 enfants, il n'y en a que 3 qui sont en IEF. Les autres sont grands, puisque j'en ai un de 20 ans, l'autre de 19 et l'autre de 15 ans. Donc, ceux-là sont scolarisés de leur choix. Et les 3 autres donc, sont en IEF. Donc, j'ai un enfant qui est en forte difficulté, qui est dysphasique, c'est-à-dire qui pose de forts troubles du langage. Et qui s'est retrouvé vraiment en échec scolaire pour le coup, puisqu'ils ont été déscolarisés. Et j'ai deux autres enfants qui sont sans grande difficulté, peut-être juste dyspraxiques, mais en tout cas qui font école à la maison, et une qui n'a jamais connu l'école. Donc tous mes enfants ont plus ou moins connu l'école, sauf une seule, la dernière. Alors comment j'en suis arrivée là? C'est une longue histoire, donc je vais essayer de faire short.
Prends ton temps.
Donc moi, à la base, j'étais professeure de l'éducation nationale. Donc je l'ai été pendant 10 ans, si on compte aussi les années où j'ai été vacataire, contractuelle, puisque ça a été vraiment une vocation pour moi. J'adorais parler, d'ailleurs ça se voit. J'adorais expliquer, c'est ce côté transmission du savoir. Plus que la matière que je représentais, c'est surtout le côté transmission du travail qui me passionnait, le relationnel avec les enfants. Parce que ce que j'adore chez les enfants et que j'aime beaucoup moins chez les adultes, pardon, c'est que les enfants sont d'une sincérité extraordinaire. Et ça va du plus jeune, mais même jusqu'aux ados. C'est-à-dire qu'un ado, parce que moi j'étais au niveau lycée-collège, s'il ne vous aime pas, il va vous le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Et quand le relationnel s'établit, il y a vraiment quelque chose de magique qui se crée et c'est fantastique. Sauf que je suis arrivée à une année où mon fils, qui est justement dysphasique, qui a de forts troubles du langage, il est arrivé donc en CP. L'apprentissage de la lecture a été une torture profonde. Chaque devoir se soldait par des pleurs. Je ne comprenais pas pourquoi, quand mon enfant, on passait 3 heures à apprendre une leçon, alors que peut-être que celui qui était juste avant, il avait mis 5 minutes à le faire. On vous fait culpabiliser parce qu'on vous dit que votre enfant est très certainement paresseux. Et puis, quand on ne sait pas ce que c'est ce type de trouble, ça ne nous vient pas nécessairement à l'esprit de penser que le cerveau... Alors, je ne vais pas dire qu'il a un problème, mais en tout cas, pour avoir maintenant beaucoup lu sur le sujet, c'est vraiment constitutionnel au niveau des neurones, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas migré, entre guillemets, là où ils auraient dû migrer. Mmh. Et ça impacte. Donc, tout le monde n'a pas le même type de dyslexie. Souvent, la dyslexie peut s'accompagner de dysphasie, mais il faut le dire que pour le coup, mon fils, il n'a pas eu de chance à un point où, même pour s'exprimer à l'oral, c'est compliqué pour articuler, c'est compliqué pour mémoriser des mots et aussi pour trouver son vocabulaire. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un qui avait eu un AVC, il ne va pas savoir où piocher le mot et puis des fois, il va même inventer un mot pour dire ce qu'il va dire. Donc, dans ces conditions, tu peux imaginer que le système scolaire, ça a été douloureux et on a continué comme ça jusqu'en CE1. En CE1, moi, je venais d'accoucher de ma fille, donc j'avais décidé de prendre un congé parental parce que j'avais aussi besoin de prendre un break de mon côté. Et il y a eu un mélange, la souffrance de mon fils, le besoin de faire un break total. Et c'est là que j'ai découvert l'école à la maison, de manière fortuite. Je me suis dit, pourquoi pas? Et là, j'ai eu une montagne qui s'est dressée devant moi parce que tout mon entourage ne comprenait pas, un, la décision de vouloir arrêter de travailler et de partir de l'éducation nationale, qui est la planque, disons-le, et deux, me lancer là-dedans. On m'a dit, mais non, tu vas pas t'en sortir, déjà 6 enfants, tu pleures, etc., etc. Donc, j'ai eu de grandes difficultés au début, parce que je plaquais l'éducation nationale, je me lançais dans un truc, même si je suis prof, ça ne m'a pas servi à grand-chose avec mes enfants. Et puis, il y avait aussi tout le côté relationnel. Donc, on s'est cherché quand même un certain nombre d'années. Et puis, on va dire, ça fait quoi, allez, 2-3 ans qu'on a bien trouvé notre rythme et que là, ça devient du bonheur.
Et donc, comment ça s'est mis en place concrètement ?
Alors, concrètement parlant, moi, je venais d'éducation nationale et je n'avais connu que ça. Donc, j'ai continué comme ça. Donc, j'étais là avec mes petits plans, mes emplois du temps, telle heure, tel cours, tel machin, tel cours. Sauf que ça, vous le faites avec des élèves, mais pas avec vos enfants. Parce que vos enfants, ils vont dire « mais non », ou ils vont vous tenir tête, ou ils ont leurs humeurs. Et puis, j'avais choisi de ne pas faire cours par CPC. Un, parce que ça coûtait cher quand même pour 6 enfants. Parce que bien évidemment, au lieu de choisir la solution de facilité, j'ai déscolarisé tout le monde. Je n'ai pas vraiment demandé l'avis à tout le monde. Donc, avec l'aîné, ça a été des clashs. Parce qu'il était grand, donc pour ceux qui voudraient le faire, ne le faites pas. Très mauvaise expérience. Et puis, au début, c'était vraiment très rigoureux dans le cadre. Et puis, petit à petit, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et j'ai découvert aussi les pédagogies alternatives, parce que bien qu'étant prof à l'éducation nationale, je ne savais pas tout cela. C'est quand même assez incroyable, parce que, un, on nous l'apprend pas quand on se forme. C'est vraiment comme si c'était quelque chose de très tabou. Et même quand vous faites les déclarations à la mairie, etc., il y a des gens qui découvrent c'est quoi l'éducation à la maison. J'ai envie de dire que ce que M. Macron a fait, c'est fantastique parce qu'il nous a fait de la pub, clairement. Il y en a plein qui ne savaient pas que l'école à la maison existait. Et c'est vrai qu'à l'époque, si je l'avais su, j'aurais peut-être commencé plus tôt. Enfin, bref, du coup, c'était très rigoureux. Et puis après, je me suis formée aux pédagogies alternatives. Et puis, petit à petit, ça s'est assoupli de plus en plus jusqu'à ce que disparaissent totalement les emplois du temps. Maintenant, pour les plus grands, on fonctionne plutôt avec un planning à la semaine. Respecté, pas respecté, ça dépend de la semaine, comment elle est plus ou moins chargée, avec des objectifs, parce que quand on se fait inspecter, il faut quand même respecter le socle commun, mais c'est beaucoup plus souple.
D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes parti d'un cadre très scolaire, finalement.
Oui.
Pour tendre vers quelque chose qui s'approche plus des apprentissages, je ne sais pas si on peut dire autonomes, mais en tout cas qui suivent leur pulsion, leur intérêt du moment.
C'est ouais, comme ça que tu comprends. Oui, voilà. On n'est pas 100% dans du unschooling. Un, parce que déjà, déformater des enfants qui ont été scolarisés, ce n'est pas facile. Et puis, deux, déjà par rapport aux troubles de mon fils, on est quand même obligé de faire un minimum, parce que sinon, la progression est difficile, étant donné qu'en plus, il est suivi en orthophonie, etc. Il faut savoir que même dans son quotidien, c'est quand même quelque chose d'handicapant de ne pas pouvoir trouver facilement ses mots ou s'exprimer. Et puis, trois, il y a la pression de l'inspection, parce qu'ils vont vous dire « Ok, choisissez la pédagogie que vous voulez, mais nous, on veut le socle », sachant qu'un enfant, s'il est plus ou moins libre, il va plus ou moins avancer à sa façon. Mais si vous ne mettez pas en œuvre les moyens pour qu'il puisse acquérir les compétences du socle, on va dire, vous n'avez rien fait. Vous avez laissé votre enfant faire ce qu'il voulait toute la journée. Non, ça ne va pas. Donc, il retourne à l'école. Donc, on est plus entre les deux. On apporte du contenu, mais en même temps, on suit le rythme, on y va. S'il faut faire la même chose pendant plusieurs semaines, on fait la même chose. On peut le faire en jouant, en s'amusant, en trouvant des activités, des projets pédagogiques, etc., etc.
C'est vrai que là, tu mets le doigt sur un point qui est particulièrement important, je trouve, pour les gens qui ne connaisseraient pas beaucoup l'instruction en famille. Je voudrais juste préciser pour celles et ceux qui nous écoutent que CPC, c'est pour cours par correspondance. Pour revenir sur le sujet, en effet, il y a différentes formes d'instruction en famille. On a tendance à dire qu'il y a deux grands courants qui sont le homeschooling et le unschooling. En gros, l'école à la maison et l'apprentissage autonome. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on fait toutes et tous comme on peut, comme nos enfants peuvent aussi, et aussi comme nous, on se sent dans la structure où le parent doit se sentir à l'aise. Je pense que ça me semble important de rappeler que le parent doit aussi se sentir à l'aise avec la situation et que c'est aussi très intéressant parce qu'il y a une espèce de terrain de compromis. Et donc, dans votre famille, la situation, si je comprends bien, c'est que, alors on va y revenir après, mais tu mènes une activité, tu mènes une entreprise, tu as ta propre entreprise, ton mari travaille. C'est ça. Et donc, ça, vous avez un équilibre de mari qui travaille à temps plein à l'extérieur.
Ouais.
Toi qui as ton entreprise et qui travaille de chez toi, avec ensuite tes enfants qui font leurs activités et leurs apprentissages.
C'est ça. Ouais, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille généralement le matin.
Ok.
On travaille de façon un peu plus formelle. Je t'avoue que le unschooling pour moi ou les apprentissages autonomes, ça fait rêver. Mais quand je regarde par exemple le programme du socle commun, c'est pas tout à fait le programme, mais en tout cas quand on regarde le socle commun et qu'on voit que dans cette partie-là, on a des équations, des fonctions, etc., j'arrive pas à voir comment est-ce que, par exemple, je peux utiliser le unschooling pour leur faire acquérir ces compétences-là. À un moment donné, j'ai envie de dire, on est limité et on se retrouve obligé à faire des choses que les enfants ne kiffent pas plus que ça particulièrement. Et on n'en a pas vraiment le choix. Ça aussi, faut en avoir conscience. Il y a des enfants qui peuvent par exemple se passionner par la programmation, et dans ce cas-là c'est génial parce qu'on peut passer via la programmation par des fonctions, de la géométrie, etc., mais tous les enfants ne vont pas se passionner de programmation. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu, très conventionnel, et ce côté conventionnel, je préfère le faire le matin avec les enfants via notre petit planning. Donc on a nos habitudes, on travaille le français et les mathématiques principalement le matin. Et pour tout le reste, on essaye de se faire un peu plaisir. Par exemple, cette semaine, je n'avais pas du tout envie de faire ces trucs-là, mais vraiment pas du tout. Donc, on n'a fait que des expériences de science. Et ça, ils aiment beaucoup. Donc, j'ai acheté tout mon matériel et on se replonge dedans. Et avec les enfants, on s'est dit, OK, moi, je leur ai dit, je vous propose quelque chose. Je sais que vous n'aimez pas écrire. Je sais que vous n'aimez pas le français. Qu'est-ce que vous diriez qu'on invente notre BD avec nos expériences? Et donc, comme projet... Donc, on réalise des expériences de science, et pour travailler le français, je leur ai proposé de créer notre petite BD où on retranscrira ce qui s'est passé en mode « Oh, maman, on fait quoi aujourd'hui ? Oh, qu'est-ce que vous voulez faire ? Allez, maman, on fait des expériences !» Ouais, enfin, voilà, une petite BD sympa, puisqu'on est un dessinateur, autant en profiter. Donc, lui, ça le met en valeur, ça lui permet de dessiner. Et les autres, on travaille sur le script. Du coup, si on travaille sur le script de la BD, on est aussi obligé de faire du français, puisqu'on l'écrit correctement. Et l'idée, c'est qu'après, on les partagera comme ça sur le site. Donc, ça mettra en valeur leur activité. Donc, voilà clairement le type de choses qu'on peut faire qui font partie, au final, du socle commun, mais qui nous permettent de le travailler d'une façon beaucoup plus sympa, moins formelle.
Eh bien, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de se dire, il y a une exigence de connaissances dans le cadre de l'éducation nationale. Et pour le coup, ça me permet aussi de pointer quand même le fait qu'en instruction en famille, il y a quand même un cadre à respecter, que ce soit un cadre législatif et réglementaire par les déclarations et les contrôles, mais pour le coup aussi un cadre de connaissances et de socle minimum à respecter. Et moi, je trouve ça super intéressant comment tu amènes cette exigence dans une activité qui va intéresser tes enfants, quoi. Je trouve ça top. Bon, après, clairement, tu l'as dit, tu parlais du site. Toi, on va parler un petit peu de ton activité, ton entreprise, puisque tu tiens un site et aussi une page Instagram. Enfin, sur différents réseaux sociaux, qui s'appelle « Apprends-moi autrement ». Et moi, je t'ai connu comme ça, en fait, parce que tu arrives à amener des connaissances et des méthodes, ou en tout cas des jeux, pour amener justement ces connaissances qui sont un peu... On va pas se mentir, on a tous été à l'école, on a tous fait pareil, qui sont un peu rébarbatives, mais d'une manière totalement ludique. Mmh. Alors c'est bien la base de ton entreprise.
Oui, tout à fait. Et je dirais même que la base de cette entreprise, ça a été d'abord mes enfants, en particulier cet enfant qui était en grande difficulté. Au début, c'était parti que sur un partage, dans le sens où ce que je fais avec lui, ça peut nécessairement servir à d'autres enfants. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, vu que j'aimais énormément l'éducation et que c'était vraiment mon métier de vocation, pourquoi ne pas continuer à faire ce métier-là tout en continuant l'IEF ? Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les réseaux, etc., prennent beaucoup de place, d'où le besoin que j'ai ressenti dernièrement d'en décoller, parce que je ne voudrais pas non plus que le côté professionnel viennent manger le côté IEF qui est quand même la base et le socle de ce que j'ai choisi faire. Or, clairement, je regarde l'année dernière, j'ai passé beaucoup plus de temps d'un point de vue professionnel que de temps avec mes enfants. Et ça, par contre, je ne peux pas l'accepter. Si je dois faire un choix entre le professionnel et mes enfants, il n'y a même pas débat, ça sera les enfants. Peu importe que ça réussisse, que ça ne fonctionne pas, je m'en fiche parce que ces instants-là sont beaucoup trop précieux. Et autant le travail, j'aurais peut-être des années pour le récupérer derrière, que cet instant-là avec mes enfants, je ne le retrouverai pas. Donc, c'est vrai que cette entreprise est pour moi la continuité de ce que je fais avec eux, et pas le contraire.
C'est magnifique, et je trouve ça, moi je peux que abonder dans ton sens, puisqu'en effet, je conçois l'instruction en famille comme un projet de vie autour duquel on va essayer d'articuler le reste. Bien entendu, on ne vend pas du rêve, hein, dans la limite des possibles, hein, mais autour duquel on va s'articuler, ça peut amener de grands changements. Personnellement, ça a amené un changement de carrière complet et un rapatriement sur Bordeaux, au plus grand plaisir de moi-même pour commencer, et de ma fille et de ma compagne. Et donc, il y a tout ce projet de vie qu'il y a derrière, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut être une solution. Il y en a, enfin, très sincèrement, il y a tellement de configurations possibles en instruction famille qu'on ne va pas dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais ça peut être, c'est une solution qu'on peut envisager. Et ce qu'il y a de génial dans ton cas, c'est qu'en plus, pour le coup, ça te permet et d'aider tes enfants, et de tester tes créations, et pour le coup, de ramener aussi une activité, quoi.
Oui, oui.
C'est un très très beau compromis.
Oui.
Et en termes de, justement, je me demande dans quel... Alors, on va d'abord se parler des contrôles, si tu veux bien. Comment se passent les contrôles? Donc, on a deux types de contrôles d'instruction en famille. Un contrôle pédagogique de l'éducation nationale, qui envoie des inspecteurs académiques, et un autre de la mairie, tous les deux ans, qui vient interroger d'autres conditions pour les enfants. Comment ça se passe, si tu peux nous raconter ces contrôles, en commençant par les contrôles pédagogiques?
Oui, parce que de toute façon, les contrôles mairie, généralement, il n'y a pas grand-chose à dire, et je me permets de dire que j'en avais enregistré un que j'ai mis en story permanente, pour un contrôle mairie, ce que je n'ai pas pu faire pour les contrôles pédagogiques. Alors, les contrôles pédagogiques, je vais remonter loin en arrière, parce que j'en ai eu des différents, et sur deux régions différentes, pour le coup, puisqu'avant, j'étais dans le 78, et autant les contrôles pédagogiques du niveau primaire se sont toujours très très bien passés, à un point où même une fois, on m'avait dit « Oh, mais ça serait bien si vous reveniez un jour sur les bancs d'éducation nationale, que vous puissiez un peu former les autres enseignants ». Par contre, au niveau du collège, et c'est là, je trouve que notre liberté devient beaucoup plus restreinte d'un point de vue pédagogique, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, donc à l'époque, c'était sur Guyancourt, on nous obligeait à nous déplacer, donc il faut quand même savoir que dans les contrôles pédagogiques, en général, on privilégie le domicile parental, là où a lieu l'instruction, logique, puisque on est libre de choisir le type de pédagogie qu'on veut, avec ou sans pédagogie d'ailleurs, et c'est quand même plus parlant pour un inspecteur de venir sur le lieu pour voir quels matériaux sont mis à disposition, comment ça fonctionne, dans quel cadre il travaille, etc. Donc nous, premier contrôle du niveau collège, ils ne voulaient rien savoir, il fallait se déplacer à Guyancourt. Alors moi à l'époque, j'avais fait l'erreur de ne pas me renseigner sur mes droits et mes devoirs, atelier que j'ai mis en place d'ailleurs sur le site et plusieurs articles à ce sujet. Et donc, je me suis déplacée sur Guyancourt. Et là, ça a été traumatisme pour moi. Donc déjà, on entrait dans une salle d'attente où il y avait plusieurs parents qui attendaient. Donc, on avait l'impression de passer à la chaîne comme ça. En plus, ils vous séparaient de vos enfants, ce qu'ils ont légalement absolument pas le droit de faire. Et on vous disait, non, vous inquiétez pas, on vous prend à part, ça fait gagner du temps, on va vous poser quelques questions. Et puis pendant ce temps-là, vos enfants, ils sont dans une autre pièce avec d'autres. Donc, ils peuvent leur poser absolument toutes les questions qu'ils veulent. Alors, personnellement, mes enfants n'ont jamais eu de questions compliquées, mais j'ai déjà ouï dire de la part de maman, qui était de confession musulmane, et qui ont eu des questions extrêmement compliquées, en mode, est-ce que vous allez à la piscine? Est-ce que vous allez à la mosquée? Est-ce que vous priez? Enfin, clairement des questions, aller à la piscine, c'est pas grave, mais aujourd'hui, on sait que c'est un signe de radicalisation, n'est-ce pas? Et ça peut aller loin comme ça.
Et des questions qui sont hors cadre du contrôle?
Complètement. Il y en a qui ont vécu vraiment des questions parfaitement hors cadre, des questions à leurs enfants qui ont été du type « Est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes à la mosquée? Est-ce que ta petite sœur aimait le voile ?» Enfin, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le cadre pédagogique. Donc, si vos enfants se retrouvent seuls avec les inspecteurs, bah, y a risque de dérive. Et de toute façon, vous ne pourrez rien entendre, donc rien vérifier, sachant que les enfants oublient parfois ce qui a été dit. Donc, on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Donc, moi, je me suis retrouvée dans cette situation. Donc, je n'ai pas souvenir que mes enfants aient eu des questions bizarres, en tout cas. Mais par contre, ils avaient des exigences pédagogiques absolument abracadabrantes. Et quand je me suis retrouvée face à eux pour faire le point, c'était bah, « tel manuel n'est pas terrible ». Donc nous, on avait à l'époque un Césamat. Alors, c'est des livres hein, qui sont utilisés même à l'école. Hein. « Oui, il n'est pas bien ». Bah, « Oui, mais bon, il y a des collègues qui l'utilisent, quel est le souci ?»« Oui, mais c'est pareil, le manuel de français. » Alors oui, il y a instruction, mais ça ne pousse pas assez, ça ne va pas bien. Et puis j'avais... pardon, hein, mais quatre serpents devant moi qui sifflaient sans s'arrêter et moi qui étais complètement déstabilisée puis qui essayait de sortir, tu sais, la dernière carte, tu vois, le joker. Ouais, mais j'étais prof. Et oui, et combien de temps vos enfants travaillent par jour? Bah, on travaille 2-3 heures maximum. Ouais, mais c'est pas assez. Bah, je dis, oui, mais quand ils étaient assis sur les bancs de l'école, c'était quoi? C'était 5 minutes de concentration et 55 les yeux en l'air. Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti à l'époque? Ah bah tiens, ça c'est bien un discours de prof. Bon bah, c'est un discours réel et concret. Nos élèves ne se concentrent pas 55 minutes sur leur chaise, sauf s'ils sont dans une activité où ils vont vraiment être acteurs de leur apprentissage. Et généralement, ça se produisait quand ils étaient en train de faire des expériences, parce que moi j'étais prof de physique-chimie. C'est là où vraiment ils étaient acteurs de leur apprentissage. Mais quand vous êtes dans un cours traditionnel, mais même nous en tant qu'adultes, on va avoir à un moment donné nos pensées qui vont vaguer à gauche, à droite. Enfin, c'est humain. Et ils n'ont rien voulu savoir. Et j'ai reçu vraiment un rapport extrêmement défavorable où on m'a dit: recontrôle, ça ne va pas. Donc ok, recontrôle, et là je me mets encore plus dans le traditionnel avec mes enfants, je leur remets du coup bah, beaucoup plus de pression, du coup bah, à la maison c'est tendu, c'est pas bien, vous disputez avec les enfants, ça crie, enfin, en plus à l'époque j'étais pas encore dans le mode bienveillant, moi-même je me cherchais, j'étais fatiguée parce que je préparais les trucs la nuit, donc le matin j'étais explosée, puis voilà, c'était vraiment un cadre... très pesant, pas du tout agréable, mais à côté de ça, je savais qu'on m'attendait tellement au tournant pour me dire « Tu vois, on t'avait dit que ça allait être compliqué, que je ne voulais pas céder à cette pression, donc j'ai tenu bon, parce que j'ai un fichu caractère. » Et deuxième contrôle, tout aussi catastrophique. Et là, on m'a enjoint à réinscrire mes enfants à l'école. Mais on m'a juste enjoint, on ne m'a pas obligée. Et comme en plus, on m'a envoyé un compte-rendu bien trop tardivement après la fermeture des écoles, ben j'ai rebondi et je me suis dit, bon bah, ok, je vais leur dire, j'ai entendu votre conseil, mais je vais prendre les CPC, les cours par correspondance. Et donc, j'ai inscrit celui qui était au collège, au CNED. Donc, il y en a un qui part, qui réintègre le lycée, et j'ai inscrit celui qui était à l'époque en niveau 4e au CNED, puisqu'en primaire, ça se passait très bien. Et là, ça a été la catastrophe. Parce que, alors déjà, c'était un enfant qui avait été aussi suivi en orthophonie à l'époque. Et le CNED n'est absolument, en tout cas niveau collège, est d'une lourdeur, mais d'une lourdeur. Ils ont énormément de devoirs à rendre. C'est des pavés entiers que vous recevez à la maison. Et puis, bah, en tant que parent, on ne peut pas se couper sur tous les enfants. Enfin, à un moment donné, il faut arriver à consacrer du temps à chacun. Donc ça l'a totalement dégoûté et il m'a dit bah, « puisque c'est comme ça, si c'est pour faire ça, autant que je retourne à l'école ». Donc il est retourné à l'école. Et pour les autres, bah, ça s'est toujours très bien passé. Donc globalement aujourd'hui, pour en revenir à aujourd'hui, on demande aux enfants, ils les évaluent plutôt soit via des exercices écrits, soit via des exercices oraux. Mais c'est l'un ou l'autre. Et on a des familles comme ça qui se font avoir et qui ont et des exercices écrits, et des exercices oraux. Deuxièmement, on ne peut pas exiger d'un enfant qu'il ait le même niveau qu'un enfant scolarisé. Ce qu'on veut voir, c'est une progression. Or, chaque année, des familles se font avoir et resubissent un deuxième contrôle, soi-disant parce que le niveau n'est pas suffisant, alors que c'est leur premier contrôle et qu'ils n'en ont jamais eu. Moi-même, ça m'est arrivé. Donc, quand ça se passe de façon bienveillante, etc., bon, parfois on se dit « Allez !» On n'a pas envie de rentrer dans l'art systématiquement et que ça soit tendu. Mais quand c'est exagéré, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat et dire « Ok, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. » Et donc, à un moment donné, il va falloir respecter ces fameux droits et le contrôle doit se passer dans le cadre qui est légiféré. Donc aujourd'hui, franchement, pour moi, je suis dans le 27 et les contrôles se passent hyper bien. Donc,
à tous les niveaux ?
À tous les niveaux. Là, alors déjà, les difficultés des enfants sont prises en compte, ce qui est un véritable luxe, ce qui n'est pas le cas, je le sais, partout. Il y en a qui ont des dossiers pourtant et les difficultés ne sont pas prises en compte. Et ils prennent en compte aussi notre mode de fonctionnement. Donc, ils sont venus à mon domicile, que ce soit pour la primaire ou pour le collège. Mmh. Et ils ont vu comment on fonctionnait. Et donc, en primaire, ça se passe très, très bien. Cette année, on s'est rendu sur leurs locaux. Mais elle m'avait prévenu à l'avance, déjà l'année dernière, gentiment, en disant « Bon, ça y est, on a vu votre manque de fonctionnement, ça sera nous l'année prochaine, on sait comment vous fonctionnez, l'année prochaine, vous viendrez dans notre locaux. » Quand ça se passe comme ça, il n'y a pas de raison de rentrer dans le conflit. Donc, il n'y a pas de souci. Et là, on a eu le contrôle de ma fille, et ça s'est très bien passé. Et on n'exige pas d'elle qu'elle ait le niveau d'une enfant scolarisée. Je sais qu'il y a des acquis qu'elle n'a pas encore acquis par rapport à un enfant qui serait par exemple en CE1. Elle a encore du mal à nommer par exemple des noms, dire 4595. Elle a souvent tendance à bugger quand elle commence à dire la centaine et le milieu. Mais c'est pas grave, alors c'est un déclic quand ça sera le moment. Mais on ne va pas en tout cas être pointé là-dessus. Ils vont peut-être le notifier, mais ils vont noter qu'il y a eu progression et c'est ce qui est demandé. Au niveau du collège, c'est pareil. Ils voient bien que mon fils a une très très forte dyslexie. Et la prof de français qui est venue une fois m'a un jour dit clairement, votre enfant il est au meilleur endroit qu'il soit, parce que ça serait à l'école, ça serait pas possible.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mais vraiment pas possible. Mais pourtant, j'appréhende toujours avec cette pression, parce que je sais qu'une fois, il avait été interrogé, et à la question, puis en plus, il a du stress. Donc, à la question « c'est quoi un président ?», il ne savait même pas quoi répondre. Donc, imagine-moi la position, j'ai un enfant en quatrième qui n'arrive pas à répondre, à dire « c'est quoi un président ?», je me suis dit « oh là là, je suis foutue, je suis fichue, c'est pas possible ». Mais non, ça s'est super bien passé, parce qu'ils ont pris en compte les difficultés. Et puis, pareil pour ma fille… Une fois, on avait un petit tableau de Wikili, où on mettait les plannings. Et puis, donc Wikili, elle a mis à disposition, vous avez les petites synagogues, vous avez les églises et vous avez les mosquées pour mettre les rituels. Et donc, elles interrogent ma fille sur le petit magnète mosquée. Et je me suis dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et ma fille qui parle spontanément, bah oui, bah c'est là-bas qu'on va faire la prière et patati patata. Et alors moi, je me décompose et je me dis, aïe. Et là, la fille hyper joviale me dit, mais c'est génial qu'ils aient fait des magnettes comme ça. Enfin, c'est super. Moi, je trouve ça génial. Et ça s'est hyper bien passé. Mais je sais que ça, c'est pas le cas de tout le monde.
Ah oui, c'est clairement pas le cas de tout le monde.
C'est absolument pas le cas de tout le monde. Là, je sais que je suis dans un endroit absolument doré. J'aurais été dans le 78, ça se serait pas passé comme ça. Et dans d'autres endroits aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai une personne qui m'a dit, lors d'un contrôle, qui s'était très bien passé par ailleurs, que lors du compte-rendu, il était notifié sur le compte-rendu que la maman avait un habit traditionnel. Mais quel est le rapport avec le contrôle pédagogique ?
Ça n'a rien à voir.
Strictement rien à voir.
Et c'est par ailleurs totalement aussi, encore une fois, hors cadre du contrôle de l'éducation nationale.
Complètement.
Donc ça c'est problématique. Hein. L'autorité, le contrôle qui permet de vérifier les et sans commentaire hein, encore une fois, mais qui permet de vérifier les motivations de l'instruction famille, c'est bien celui de la mairie. Ça c'est une question qui est valable dans le contrôle de mairie, la motivation.
Oui, tout à fait.
Donc ça c'est super intéressant à savoir. Et après les exemples que tu donnes sont très très parlants et très factuels, et merci, parce que ça montre bien que ça peut très bien se passer, comme pas bien du tout. Il y a eu des exemples bien sûr donnés par rapport à la religion musulmane, mais il y a aussi d'autres exemples. Moi je vais te donner un exemple d'un contrôle qui a été réalisé en janvier d'un enfant de 7-8 ans à qui on demande à qui dois-tu obéir? Tu vois, si je te pose cette question, si je te dis à qui dois-tu obéir? T'es un enfant de 7-8 ans. Je te dis à qui dois-tu obéir? T'as envie de répondre quoi?
c'est dingue! C'est dingue comme question!
Et bien, l'enfant a répondu à mes parents.
Oui.
Ce qui est tout assez logique à 7-8 ans. Et bien non, la réponse, c'était la police.
C'est une blague.
Non, c'est pas une blague, c'est un vrai contrôle. Bon, bien évidemment, la famille, le contrôle s'est bien passé, hein, cela dit. Mais les familles étant très expérimentées ont pris le sujet et font le contre-rapport qui va bien. Enfin voilà. Mais c'est aussi ça qu'on entend. Si tu veux. Donc c'est un peu particulier ce qui joue des fois pendant les contrôles. Pour autant, en effet, faut pas trop stresser. Il y a quand même une grande majorité des contrôles qui se passent très bien. Et je pense que ce que tu proposes justement de connaître ses droits et ses devoirs, mais aussi ses droits, hein, c'est bien de le savoir, juste pour savoir que là, à un moment, l'inspecteur ou l'inspectrice, ça déborde, ça sort.
Voilà,
ça sort du cadre. Donc, dans le cadre, allez-y à fond, autant que vous voulez, mais on va rester dans le cadre.
Exactement. Et il m'est arrivé la même expérience dans les contrôles mairie. C'est-à-dire que ça s'est toujours très, très bien passé. Il y en a qui disent, oui, mais quand ils te demandent quel est ton travail, ils sont hors cadre. Moi, du moment que ça se fait de façon bienveillante, franchement, je chipote pas. Voilà. Moi, je pense aussi que, certes, il y a un cadre, mais il faut aussi être souple et ne pas qu'on soit tout de suite sur nos gardes et que tout de suite, ça soit très tendu. Par contre, un jour, ils ont un peu dérapé. Donc, Bibi, elle a dit, ouh, là, ça va être compliqué. Donc, lors d'un contrôle, ils me disent, est-ce que vous avez eu votre contrôle de l'inspection l'année dernière ? Je dis, oui, vous voulez voir, j'ai le document, oui, faites voir. Et puis là, le gars se met à photocopier tous les rapports. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Non, c'est pour ma collègue, comme elle prend la suite l'année prochaine. Je dis, oui, mais ça n'a rien à voir avec le contrôle mairie. Ça vous dérange ? Oui, vous voulez que j'efface ? Oui. Et donc, il a effacé, et il dit, pardon, je suis désolée. Et autre chose, chaque année, il venait. Donc, la première année, je dis, bon, je dis rien. Et je lui dis, sur le ton de la plaisanterie, dis donc, ils vous font beaucoup travailler à la mairie. C'est tous les 2 ans, normalement. Il me dit oui. Et puis, il revient l'année d'après. Et alors là, je me suis dit, non, ça commence à bien faire. La loi, c'est tous les 2 ans. Donc, je prends mon téléphone. Je vous appelle suite au courrier que vous m'avez envoyé pour le rendez-vous. Attendez, je prends mon agenda. J'ai dit, non, ça va pas être possible. Il me dit, pourquoi ? J'ai dit, vous êtes venu l'année dernière, vous vous rappelez, c'est tous les 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, tous les 2 ans. Et puis cette année, ils sont repassés et elle me dit, bon, à 2 ans. Hein. J'ai dit, oui, à 2 ans.
Non, mais c'est ça. C'est... Bon, après, t'es quand même dans un contexte où ça se passe bien, tu vois, même le rappel à la règle se passe bien.
Ça reste très bienveillant, c'est fait sur le fond de la plaisanterie, on n'est pas dans le conflit. Voilà, une fois, si, je crois que ça a été un peu conflictuel parce que l'inspectrice n'était pas venue. Elle avait elle-même loupé son rendez-vous. Et en fin d'année, se rendant compte qu'elle n'était pas venue, elle me mettait la pression pour venir inspecter les enfants, je crois, fin juin, alors qu'ils devaient partir en vacances. Et j'avais beau lui dire que non, c'était pas possible. Si elle voulait m'inspecter à la rentrée, mais ils peuvent pas, en fait, puisqu'il faut que ça soit d'une année scolaire à l'autre. Et elle m'avait mis quand même une pression avec des messages un peu compliqués vocaux. Là, oui, j'avais écrit un courrier parce qu'elle exagérait. Mais vraiment, ça a été rarissime. Ça se passe globalement vraiment très, très bien. Ils sont très bienveillants, très doux avec les enfants, compréhensifs. Ils vont même donner des conseils. Vous pourriez, tout en suivant votre type de pédagogie, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas de cours d'anglais, mais si vous voulez, on peut vous conseiller tel livre, il est pas mal pour apprendre telle chose. C'est des livres de lecture en anglais. Donc, non, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des contrôles qui sont compliqués. Et comme tu dis, la plupart des contrôles, fort heureusement, se passent bien.
C'est ça. Et en effet, la recherche d'accompagnement pédagogique, c'est quelque chose qui est très attendu par les parents. Et ça, c'est quand même plus rare. Faut pas se mentir non plus. Mais globalement, oui, les contrôles se passent relativement bien. Et je suppose que... la question qu'on te pose sûrement toujours, puisque c'est la question qu'on pose tout le temps quand on parle d'instruction en famille, la sociabilisation, Myriam. Comment ça se passe ?
Ah, mais j'ai tellement de choses à dire à ce sujet, parce que pour le coup, moi, j'ai des enfants qui ont été déscolarisés et qui sont encore scolarisés, et des enfants qui ont été moyennement scolarisés et une qui n'a pas du tout été scolarisée. Et je vois, alors déjà, le constat global, c'est que mes enfants qui sont en école à la maison, sont incroyablement sociables. Ils vont vers les gens. Et puis alors, ma fille, pour le coup, qui n'a jamais connu l'école, il n'y a pas un endroit où elle va, où elle ne se fait pas de copine. peu importe le parc où on ira, je n'ai jamais vu ma fille se disputer. C'est-à-dire que même des fois, si on sort en groupe neveu, nièce parmi les enfants scolarisés, les enfants scolarisés vont parfois se disputer. Ma fille, jamais. À chaque fois que je veux des histoires, j'arrive et je me dis, mince, peut-être qu'il y a eu un truc. Non, non, elle n'est jamais dans l'histoire. Elle arrive toujours à se faire des copines. Et que ça soit avec les plus grands ou les plus petits. Elle peut autant jouer avec une enfant de 3 ans qu'avec une enfant de 10 ans. Il n'y a pas de souci. Par contre, et en plus d'ailleurs, mes enfants qui sont en école à la maison, ils sont vachement soudés entre eux. Ils sont tout le temps en train de jouer ensemble, les trois qui sont tout le temps ensemble. Il y a vraiment un lien extrêmement fort qui s'est construit. Alors que ceux qui sont scolarisés, moi je ne dis pas que c'est des mauvais gamins, hein, mais c'est un autre état d'esprit. C'est différent. Ils sont plus facilement dans le conflit. Donc on pense en fait qu'on désociabilise nos enfants, mais ce n'est pas vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit manque, et je peux comprendre pour les enfants, pour les parents de famille, entre guillemets, avec un seul enfant, si on n'a pas de monde autour de nous qu'on peut voir, tu vois qu'elle est complètement sociable, elle est en train de faire la fofolle derrière moi, quand il n'y a qu'un enfant et qu'on a des difficultés à voir d'autres parents, je peux comprendre que ça soit un peu difficile. Mais il suffit d'aller au parc, aux heures où tous les enfants vont venir jouer. Bon, c'est vrai qu'avec le confinement, en ce moment, c'est plus compliqué. Mais il y a tellement de façons de voir d'autres enfants. Et au moins, ils choisissent avec qui ils veulent jouer. Ça ne leur est pas imposé. Quand tu es dans une classe, tu es obligé de faire avec ta classe, que tu t'entendes avec ou pas. Moi, cette année, j'ai un de mes enfants qui me dit « j'aime pas ma classe ». Il a ses copains à l'extérieur, mais j'aime pas ma classe. Alors que quand on est en école à la maison, ben, on fréquente les personnes qu'on a choisi de fréquenter. Et c'est un peu le même principe que quand on va au travail. Quand on choisit son métier, quand on est son propre chef d'entreprise ou qu'on a choisi la boîte avec laquelle vraiment on a envie de travailler et qu'on se sent bien, ben on travaille avec des personnes avec qui on se sent bien. Mais si on se retrouve dans un cadre qu'on n'a pas choisi et entre guillemets on va travailler parce qu'on n'a pas le choix, qu'il faut qu'on gagne de l'argent, ben il y a souvent de grandes tensions au sein de l'entreprise. Et quand j'étais jeune, comme ça, j'avais passé un entretien pour travailler au Quick. Je comprenais pas pourquoi je me faisais tout le temps recaler parce que je faisais toujours des lettres de motivation beaucoup trop sérieuses. Donc, ils pensaient que j'étais trop sérieuse comme fille. Et grand patron, par miracle, me reçoit. Il me dit, mais c'est marrant, quand on voit votre lettre de motivation, j'aurais jamais imaginé que vous aviez autant de facilité à parler. Je pensais que vous étiez coincée. Alors, je dis, oh non, pas du tout. C'est juste que j'aime bien les choses soignées. Et là, il me pose la question et il me dit, est-ce que vous pensez que les conflits sont inévitables, qu'est-ce que vous pensez des conflits au sein du travail? Sont-ils inévitables? Bah, je dis non, normalement il ne doit pas y avoir de conflit, hein. Cucu, mimi, la praline, hein, comme on dit. Bah, non, il ne peut pas y avoir de conflit. Enfin, si tout le monde respecte sa place et que tout le monde fait ce qu'il a à faire, pourquoi il y aurait des conflits? Bah oui, après tout, c'est logique, pourquoi il y aurait des conflits? Et là, il me dit non, les conflits sont inévitables au sein du travail et vous rencontrerez des conflits. Bah, il n'a pas eu tort, hein, au final, il y a eu des conflits. Mais effectivement, j'avais raison aussi parce que les gens ne respectaient pas la position qu'ils devaient avoir. Et on avait des personnes qui se retrouvaient dans un milieu de travail qui n'était pas nécessairement voulu. Et ben c'est la même chose à l'école. Vous vous retrouvez avec des camarades de classe, vous ne les avez pas choisis. Bah, c'est normal qu'il y ait des conflits qui ressortent puisque vous vous retrouvez pratiquement toute la journée avec des personnes que vous n'auriez peut-être pas fréquentées si ce cadre ne vous l'imposait pas. Donc là, il y a, je pense, un problème de sociabilisation au niveau de l'école, pour moi.
Bah, c'est vrai que, alors pour le coup, là, ça pose un vrai problème structurel, parce que d'un côté, moi j'entends l'argument qui dit que l'école, c'est bien justement pour que les enfants, les humains, se rencontrent et se confrontent potentiellement à des réalités qui ne sont pas les leurs. Ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve utopique, par contre, la parole du ministre de l'Éducation nationale qui nous explique que les inégalités s'oublient et s'effacent au sein de l'école. Ça c'est juste faux. Et d'ailleurs, le rapport PISA démontre que l'école d'éducation nationale française est parmi les plus mauvais élèves en termes d'inégalités sociales en son sein. Donc voilà, faut regarder les rapports un peu objectifs. Mais en effet, je trouve ça très intéressant le rapport à l'entreprise que tu as fait, parce que en fait, c'est une question de système. On retrouve aussi, que ce soit dans le système de l'entreprise, dans le système de l'école, une forte compétition plutôt, instaurée au sein même du système,
ah oui.
Et une compétition de l'individu,
complètement.
Qui doit en permanence se comparer aux autres, qui doit en permanence faire mieux. Enfin voilà, on est sur vraiment un système qui est dans ce sens-là. Bon, là, pour le coup, on a un peu dévié, mais ce sont des bifurcations qui vont bien.
Pour le coup, moi, j'ai vraiment deux choses à ce sujet à dire. Effectivement, la compétitivité, moi, j'ai eu beaucoup de mal à leur enlever. C'est-à-dire que quand on a déscolarisé les enfants, j'ai vraiment dû travailler là-dessus. Et même maintenant, ce n'est pas totalement effacé. Cette compétitivité, elle est terrible. Et ce côté à, bah, pour me valoriser, il faut que je dévalorise l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement effacé sur certains de mes enfants. Et par contre, pour le crédit de M. Blanquer, effectivement, l'école est un milieu de sociabilisation, mais le seul endroit où il est, c'est la récréation.
Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi, puisqu'en effet, tu ne sociabilises pas dans les salles de cours. Comme tu l'as très justement dit, tu vas être attentif 5, 10, 15 minutes, et puis après, tu vas lever les yeux au ciel. Et c'est ce qui fait le choix justement c'est ce qui peut amener un choix d'instruction en famille. Myriam, en instruction en famille, comment tu gères tout ce qui est matériel, les supports, parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent. Bon, on a bien compris que tu en fabriques un certain nombre, mais au niveau des livres de cours, est-ce que tu fonctionnes avec comment ça se passe? Est-ce que tu participes à des bourses aux livres? Comment ça s'organise vraiment dans le quotidien?
Alors, déjà, moi, j'ai un problème un peu passionnel. Je ne sais pas si je suis le meilleur exemple, mais tout ce qui est jeu étant passionnel, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup acheter. Après, j'ai aussi le luxe de pouvoir me le permettre puisque j'achète le matériel. Aujourd'hui, je ne me prends pas de salaire, mais j'achète le matériel de pédagogique, en tout cas, via la société, ce que je gagne. Donc, quelque part par là, voilà. Donc, en termes de livres, si j'achetais des bouquins, c'était uniquement en mathématiques pour avoir les exercices, et encore que je trouve que les ouvrages de maintenant, c'est plus les mêmes qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les programmes, j'avais lu comme ça une fois une BD qui était assez drôle, qui schématisait les problèmes qu'on rencontrait nous quand on était à l'époque, tout jeune, et les problèmes maintenant quand ils sont présentés aux enfants. Et ils ont, au fur et à mesure des années, comment dirais-je, je ne vais même pas dire enrichi, mais alourdi les textes, les problèmes présentés aux enfants. Et c'est-à-dire qu'une chose qui pourrait être présentée extrêmement simplement devient tout de suite très compliquée avec un pavé à interpréter assez colossal. Et quand on a un enfant, par exemple, qui est dyslexique ou dysphasique, clairement, ce pavé, c'est imbuvable. Donc, c'est vrai qu'avec les enfants, vu que j'ai la chance d'avoir fait des études en maths ou en physique-chimie, je m'octroie le luxe de ne pas avoir de support, en tout cas de bouquins, dans quelque matière qui soit. J'en ai acheté, mais je ne m'en sers pas. Donc j'utilise un site que je trouve plutôt sympa, qui s'appelle toutpetit.com. Et sur ce site-là, il y a tout plein d'exercices qui sont disponibles au format PDF. Et il y en a dans différentes matières. Donc c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup en mathématiques, parce que justement, il n'y a pas tous ces pavés de texte pour les problèmes. Donc, sur ce site-là, moi, j'utilise les fichiers PDF pour faire les exercices de façon formelle, mais toutes les présentations sont faites de façon informelle. Donc, c'est vrai que j'utilise aucun support de cours officiel. Je vais piocher à gauche, à droite. Pour le français, c'est pareil, c'est pas la peine, je l'écris moi-même. Comme j'ai des enfants qui sont plutôt en difficulté par rapport à l'écriture, si je veux leur faire travailler la grammaire avec l'aide de l'orthophoniste, par exemple, je vais mettre en place des textes et je vais leur demander de trouver les erreurs de grammaire, ou je vais faire les activités, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec une BD ludique. Dans les langues, on a trouvé des petits jeux en ligne ou des cours en ligne. Au final, pareil, l'histoire géo, on va plutôt regarder des documentaires. Donc, il n'y a rien d'officiellement formel. J'ai pas de cours ou de livres. Mais bon, pour le coup, je suis un petit peu avantagée par rapport à mon cursus.
Bah oui, non, mais c'est sûr que ça aide d'avoir l'expérience de professeur, je pense, dans ce cas-là.
Ouais.
Bon, comme tu le sais, puisqu'on échange régulièrement sur le sujet, l'instruction en famille est menacée, la liberté d'enseignement est menacée. Comment est-ce que ça se passe chez toi, cette situation? Est-ce que les enfants sont au courant? Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Alors, la première fois qu'on a eu l'annonce, moi, je t'avoue que ça m'a abattue. Hein. Les larmes sont montées et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi? Et je l'ai expliqué aux enfants parce que beaucoup de transparence avec mes enfants, on parle absolument de tout. Et c'est marrant, une fois, ma fille m'a dit, mais maman, pourquoi Macron, il est si méchant? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi il nous aime pas? Et c'était tellement, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça? J'ai pas su quoi lui répondre et je lui dis, bah, je ne sais pas, peut-être parce qu'il ne comprend pas. Et souvent, les gens qui ne comprennent pas ne réagissent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient. Donc, ça nous a pourri, surtout qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication des journalistes. Enfin, je trouve qu'il y a eu un bourrage de crâne qui a été très oppressant, psychologiquement parlant. Donc, j'ai choisi de ne plus regarder et je me suis dit, j'ai fait les causes nécessaires, voilà, remplir les pétitions, voilà, essayer de participer à la hauteur de ce que je pouvais parce que je manque un peu de temps. Mais je me suis dit, dans le pire des cas, il ne faut pas non plus que je pourrisse si ça devait être ma dernière année avec eux et que je continue de profiter au max parce que si c'est pour m'angoisser, être de mauvaise humeur et ne pas profiter, entre guillemets, des derniers instants qui nous seraient accordés, ça serait un peu dommage. Donc, j'ai décidé que j'en profiterai au maximum et que bah, j'essaierai de mettre les moyens en œuvre nécessaires pour que ça puisse continuer, quitte à faire des demandes particulières, puisque j'ai la chance d'avoir des enfants à troubles, dyspraxie, dyslexie. Comme je dis à mon fils la dernière fois, il me dit « Oh, mais maman, t'as vu, j'ai tiré le mauvais lot, je suis dyslexique, je suis dysphasique, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Je dis « Mais non, regarde, c'est une chance incroyable, puisque c'est grâce à ta difficulté qu'on a connu l'école à la maison, donc c'est fantastique. » Donc voilà, on le vit dans cette optique-là, c'est pas très réjouissant, même si ça devait se faire avec des conditions, je trouve ça incroyable parce que tous les enfants n'ont pas des difficultés et on a le droit d'avoir le choix à un moment donné de transmettre un savoir de différentes manières et se restreindre à se dire qu'il n'y a qu'une façon de voir l'enseignement, c'est terrible. Et ça, c'est ce que j'écrivais dans mon dernier article parce que je présentais du matériel et je racontais, pour le coup, une anecdote qui a vraiment été vécue. C'est-à-dire que j'étais quand même très bonne élève en maths depuis que j'étais petite. Nous, à l'époque, on avait les carnets. T'as connu ça, toi aussi? Avec les classements, tu sais. Et en plus, moi, j'avais un père hyper exigeant. Donc, il ne fallait pas être en dessous de troisième. Et pas de bol, il y en avait toujours un qui était hyper fort. Donc, j'arrivais jamais à être la première de la classe. Mais voilà, il y avait le challenge maths et j'étais plutôt bonne élève en maths. Ensuite, pareil, collège, lycée, très bien. Mais j'adorais les langues, donc je voulais être interprète. Mais mon père m'a dit, ah non, il faut que tu sois ingénieur. Donc, tu vas en S. J'ai fini en S. Et malgré le cursus que j'ai eu très scientifique, je me suis rendu compte que lorsque j'ai fait école à la maison et que j'ai découvert les pédagogies alternatives, que je ne savais pas ce qu'était une retenue. J'ai réalisé que de façon mécanique, j'ai toujours fait une addition en disant 3 plus 8, 11, j'écris 1, je retiens 1. Mais qu'est-ce que ça voulait dire je retiens 1? Et quand j'ai compris ce que ça signifiait, je me suis dit mais c'est pas possible. T'arrives à 35 ans et tu comprends uniquement à 35 ans ce que représente cette retenue qui est un échange tout simplement entre 10 unités contre une dizaine. Mais au final, à l'école, jamais on nous l'avait expliqué. En tout cas, moi, de mon cursus, ça n'avait jamais été expliqué. Et j'ai compris pourquoi, quand j'étais étudiante, quand on nous plaçait dans une situation où on fallait qu'on cherche par nous-mêmes des réponses, je n'y arrivais pas. On nous mettait dans un problème clé. Voilà, vous avez telle situation. Imaginez une expérience que vous pourriez mettre en place pour essayer de voir avec vos hypothèses si ça correspondrait, vous observez, vous réalisez, vous observez et vous concluez. Mais j'en étais parfaitement incapable. Moi, quand les professeurs me posaient devant un pareil exercice, j'avais le blocage, l'échec. Pourquoi? Eh bien parce que, justement, avec le système scolaire, on ne nous a pas appris à se poser des questions. On nous a rentré des données de force dans la tête. Je ne sais plus pourquoi on en est arrivé à parler de ça. Mais en tout cas, il n'y avait pas ce recul de se dire « Ok, pose-toi des questions. Pourquoi tu fais ça ?» Et le souci, c'est que voilà, en voulant nous enlever ce droit de faire l'école à la maison, on va nous enlever cette ouverture d'esprit que l'école à la maison accorde. Quand on est petit, on se pose plein de questions. Et ma fille me dit souvent, maman, je te pose beaucoup de questions, hein, mais vas-y, ma chérie, pose tes questions. C'est génial, parce que quand on arrive à l'école, au bout d'un certain temps, ces questions, elles disparaissent. Et je vois, après, je ne jette pas la pierre au professeur, parce que je vois mes grands, par exemple, ils sont 35 en classe. On a un programme à suivre en tant qu'enseignant. Comment est-ce que vous voulez que les enseignants puissent achever leur programme si toutes les 5 minutes, effectivement, il y a des enfants qui vont leur poser des questions? Bon, je ne réfléchissais pas comme ça en tant qu'enseignante. Hein. Il fallait que les enfants aient compris quoi qu'il en coûte. Mais mes enfants, parfois, posent des questions. Et si au bout de 2-3 fois, vous n'avez pas compris, bah next. Et c'est dommage, parce que nous, en école à la maison, on prend le temps de répondre absolument à tout. Et si on n'a pas les réponses, on n'a pas de honte à dire « je n'ai pas la réponse, viens, on va chercher ensemble si on peut trouver la réponse ailleurs ou chez quelqu'un d'autre. » Et ce luxe-là, je trouve ça cruel de nous l'enlever, mais surtout parfaitement incompréhensible, destructeur et pas du tout constructif pour l'avenir des enfants et l'avenir du pays en lui-même.
Et moi, ce qui me dérange le plus dans ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer, c'est que qu'on soit pour ou contre l'instruction en famille ou pour ou contre l'école dans son état actuel, ce qui m'interroge, moi, c'est le fait qu'on supprime une liberté de choix. Ça c'est un vrai problème pour moi. Et je crois que nous sommes bien arrivés au bout de cet enregistrement, Myriam. Je te dis merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
Pour ton témoignage. Et à bientôt.
À bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.